Bon, alors, peut-être un mot d'abord sur l'Open de golf britannique qui est annulé.
La saison de golf qui est chamboulée, là, l'Omnium britannique de golf qui a été officiellement annulé. Il n'y en aura pas cette année, c'est remis à l'an prochain. Et ce qui fait que le calendrier 2020 là ressemble à ceci maintenant, évidemment, si on réussit à reprendre les activités. Le championnat de la PGA aurait lieu au début du mois d'août, du 6 au 9. L'Omnium américain aurait lieu du 17 au 20 septembre et la saison prendrait fin avec le tournoi des maîtres du 12 au 15 novembre. La Coupe Ryder, pour l'instant, demeure aux dates prévues, c'est-à-dire du 24 au 27 septembre. Il y aurait aussi quelques tournois là, présentés à toutes les fins de semaine qui devraient changer de date. La Ligue nationale a annoncé que son repêchage aura lieu aux dates prévues, mais que tout le personnel des équipes va travailler de son domicile. Pas de rassemblement possible. Et comme on a ordonné la fermeture des sites d'entraînement, des complexes, des bureaux, des équipes également, alors tout le monde devra travailler de la maison. Si vous voulez voir le salon de Bill Belichick, c'est peut-être une occasion de regarder ça. Le baseball, il y a réunion entre le baseball majeur et l'association des joueurs. On a évoqué la possibilité de réunir toutes les équipes en Arizona. Il y a plusieurs formations qui s'entraînent en Arizona dans la Ligue des Cactus au printemps. L'avantage sur la Floride, c'est qu'autour du stade des Diamondbacks, il y a 10 terrains dans un rayon de 80 kilomètres. Alors qu'en Floride, où là aussi, il y a beaucoup d'équipes qui s'entraînent dans la Ligue des Pamplemousses, les terrains sont répartis sur 350 kilomètres. Alors, ça permettrait un taux de roulement plus élevé en Arizona. Et le basketball, ben, au mois de mai, là, on verra, on prendra peut-être une décision, dépendamment de l'évolution de la situation.
Parlons technologie, Ray.
Oui, bien, c'est important de revenir de temps en temps sur le développement de l'industrie quand même. La technologie, moi, j'appelle ça une évolution constante là, sur l'industrie du sport. Tu sais, quand je pense à la technologie, je regarde la première chose qui me vient en tête, c'est les reprises de la télévision. C'est CBC avec Hockey Night in Canada qui avait littéralement inventé des reprises des meilleurs jeux, mais ça se déroulait 3-4 minutes après le jeu. C'est en 1955. Puis en 1963, la première reprise instantanée, c'était CBS Sports qui avait créé ça, où littéralement, après un jeu là, bien sélectionné, il était en mesure de retourner au début du jeu puis le reprendre. Aujourd'hui, évidemment, on prend tout ça pour acquis. La technologie qui joue un rôle important dans notre façon de consommer, autant dans un stade, dans un amphithéâtre, pour l'écran géant puis l'électronique, autant à la télévision et sur les différentes plateformes. Puis le but de l'intervention, c'est de souligner la croissance rapide puis comment ça impacte beaucoup les décisions dans une compétition sportive. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de Hawkeye. Puis Hawkeye, on le prend pour acquis, c'est les reprises vidéo lors des matchs de tennis qui te permettent de confirmer ou non si la balle est en jeu ou est à l'extérieur. Ça a été développé en 2001 par un Britannique qui s'appelait Paul Hawkins, évidemment. C'est pour ça qu'on l'appelle ça Hawkeye. Et Hawkeye est dans la famille de Sony. Fait que c'est une grande multinationale qui contrôle ça. On pense à Hawkeye pour le tennis, Paul, Alain, mais c'est dans 20 sports différents, y compris le soccer, y compris le hockey. Puis ça n'avait pas été créé au début juste pour le tennis, ça avait été créé aussi pour le rugby. Alors, c'est un système de caméras. Il y en a 10 d'installés dans 80 stades de tennis dans le monde entier. Fait qu'il y a 80 stades qui utilisent cette technologie-là. Puis non seulement ça permet de s'assurer qu'on a les bons calls, les bonnes décisions sur le moment même de la part de l'officiel, mais c'est aussi quelque chose que je trouve divertissant lorsqu'on va voir du tennis. On arrête une seconde, chacun des joueurs a 3 demandes, si on veut, par 7, et puis on regarde le tableau central pour voir si la balle a effectivement était bonne ou était à l'extérieur.
Et mais c'est j'ai une question à te poser. Là. Est-ce que tu penses, parce que tu as décrit l'évolution extrêmement rapide, là, qu'un jour, les juges de ligne, par exemple, vont disparaître?
Même les arbitres au baseball, on se demande si l'arbitre derrière le marbre...
Ouais. Alors, au baseball mineur, Paul, c'est-à-dire le baseball, qu'on a, pas mineur les jeunes, mais mineur professionnel, c'est-à-dire le 2A, 3A, là, ils ont commencé l'an dernier à mettre des robots pour être l'arbitre au marbre. Il y a un individu au marbre quand même qui, lui, on lui communique la décision du robot et il verbalise.
OK, c'est un haut-parleur.
Si c'est une prise ou si c'est une balle. Bon, mettons que la technologie avance. On l'a quand même essayé à un niveau professionnel. Dans le 3A, là, ces gars-là sont à une étape de faire le baseball majeur. Bon, la question, c'est quoi? C'est que, est-ce que l'erreur humaine est si importante à éliminer? Et en principe, on devrait tous penser que si la technologie aide à améliorer la compétition puis l'intégrité, on devrait utiliser la technologie. Il ne devrait même pas avoir de doute là-dessus. Mais d'un autre côté, l'arbitre robot au marbre ne peut pas appeler toutes les décisions responsables d'un arbitre au marbre. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peu flexible et souple dans notre approche, parce que ça ne se remplace pas automatiquement l'œil humain. Je reviens au tennis. C'est quand même, là, au tennis, j'ai dit 80 tournois, là, mais si on prend l'ensemble du sport mondial, c'est 500 événements par année qui utilisent le Hawkeye. Et la beauté de ça, c'est que c'est les caméras qui prennent toute la trajectoire de la balle, puis c'est de l'intelligence artificielle, Paul et Alain, qui permettent un peu d'anticiper le trajectoire, le mouvement de la balle qui va toucher les lignes et les rebonds. Et quand je dis que c'est au millimètre près, lorsqu'ils font un zoom-in, là, un focus sur la balle, on voit littéralement, tu sais, le petit poil qui touche aux balles, là, et à quelle mesure c'est loin ou non de la ligne de côté. C'est vraiment impressionnant. Puis l'expérience pour les téléspectateurs, à mon avis, est rehaussée. On élimine le statu quo, on élimine le doute, et tout de suite, on a une décision. Elle n'est jamais contestée de la part des joueurs non plus. Ça, c'est quand même phénoménal. Au hockey, on s'en sert pour voir si la rondelle a pénétré. Ça s'appelle Smart Replay. Et c'est un début, ça. C'est pas tout à fait compris, parce qu'au hockey, le problème, c'est que la rondelle est souvent cachée par le gardien de but. Il est par-dessus physiquement la rondelle, on ne la voit pas. Donc, on est en train de continuer d'évoluer la technologie, puis les sensors qui sont autour des poteaux des buts et dans la glace pour détecter la rondelle où est-elle si le gardien était couché dessus pour effectivement affirmer qu'il y a un but ou non.
Merci. On se retrouve demain à 8h30 avec ça. Un résumé peut-être?